saison, le podcast du Théâtre Antoine Vitez, Scène d'Ivry. Vous le savez, nous le savons, on le sait. Nous n'avons pas le droit d'ouvrir les théâtres aux spectateurs en ce moment. Mais comme dirait Christophe, notre cher directeur, on ne va pas pleurer sur le lait renversé. Pourtant, il s'en passe des choses dans nos murs. Des artistes et des techniciens font naître des spectacles. Alors je vous emmène avec moi au théâtre. Cet épisode, c'est comme si vous y étiez. Vous allez entendre des extraits des deux créations en répétition au théâtre. Tout d'abord, l'avenir de la société industrielle, mise en scène par Mirabelle Rousseau, de la compagnie Le Toc, qui fête ses 3 ans de résidence avec nous. Et aussi, Le Monde est rond, mise en scène par Christian Germain, de la compagnie Même les Anges. Vous deviez découvrir ces deux spectacles au mois de janvier, alors je vous y emmène quand même. Vous êtes prêts? C'est parti! Mirabelle, est-ce que tu peux nous présenter le spectacle?
Alors, nous travaillons sur un manifeste de Théodore Kaczynski qui s'appelle « L'avenir de la société industrielle ». C'est un manifeste qu'il a probablement commencé à écrire dans les années 70 et qu'il a en réalité fait publier dans les journaux au milieu des années 90, au moment où il a été arrêté par le FBI après une traque de plus de 15 ans. Donc Kaczynski est un mathématicien qui a démissionné de l'université très jeune, alors qu'il était extrêmement brillant, et qui s'est réfugié dans une cabane du Montana qu'il a construit lui-même pour mener un projet d'autonomie et d'autosuffisance. Et dans sa cabane, pendant les 20 années qu'il y a passé, il a écrit et il a également construit des bombes qu'il a envoyées aux personnes dont il considérait qu'ils étaient responsables de la société dans laquelle on vit aujourd'hui et qui était pour lui une menace, puisque Kaczynski a vu les autoroutes se développer dans la forêt. Il a vu les élans à qui on mettait des colliers électroniques. Il a assisté à la déforestation. Il était dérangé par les avions qui passaient de plus en plus au-dessus de lui. Donc il a développé un ressentiment notable pour la société technologique. Il a décidé d'en finir avec la société technologique et il a écrit ce qu'on peut appeler un brûlot contre cette société. Voilà.
Et pourquoi tu as choisi ce texte ?
Alors moi j'ai voulu monter ce texte parce que je travaille depuis très longtemps sur des manifestes qui me donnent l'occasion de faire des solos pour donc un seul acteur. Et il m'a semblé qu'en ce moment, en tout cas, le plaidoyer anti-technologie de Kaczynski, bien qu'étant extrêmement radical, avait des choses à nous dire. Parce que on a de plus en plus en France des mouvements d'écologie radicale qui peuvent prendre des formes violentes. On voit des enfants dans le monde entier qui prennent des positions très nettes, politiques finalement, contre ce monde-là. Et on peut peut-être imaginer que l'avenir du terrorisme sera écologique. Donc il me semblait intéressant de revenir un peu aux bases d'un anarchisme écolo tel qu'il avait été incarné par Kaczynski à la fin du XXe siècle.
Et tu n'as pas peur de la controverse du fait d'avoir monté le texte d'un assassin?
Alors nous, on a essayé de mélanger le manifeste avec des extraits de textes plus autobiographiques dans lesquels il explique sa vie dans la forêt et le plaisir qu'il y a trouvé. Donc le spectacle propose un contrepoint permanent entre l'expérience naturelle qu'il a menée et le dessin terroriste destructeur qu'il a par ailleurs fait aboutir. Donc j'espère que le spectacle se situe dans une forme de dialectique entre son expérience personnelle et le terrible programme qui s'est fixé. Voilà.
Merci Mira. Là, on voit au plateau une cabane très haute, de 3,60 m.
Il est très difficile d'entreprendre une action que les autres considèrent comme une folie. J'ai construit ma cabane moi-même, du début du mois de juillet jusqu'à la fin du mois de novembre 1971. Au cours des 10 premières années de mon installation, et même au-delà, je n'ai donc pas établi beaucoup de contacts avec les gens du coin. Voyez-vous, je passais beaucoup de temps dans les bois, solitaire, et par conséquent, je n'avais pas l'occasion de rencontrer quiconque en dehors des gens vivant à proximité. Je constate que la campagne environnante a été transformée par l'exploitation forestière, la construction de routes et l'horrible afflux de gens venus s'installer. La pire chose que j'ai connue au cours de ma vie dans les bois fut l'envahissement progressif de la nature par la civilisation moderne. Il y avait toujours plus de maisons à Stemple Pass Road et partout ailleurs. Plus de routes traversant les bois. Plus d'endroits déboisés. Plus d'avions survolant la région. Et les colliers électroniques sur les élans. La pulvérisation d'insecticides, etc. etc. Nous utilisons le terme « activité de substitution » pour désigner une activité dirigée vers un objectif artificiel, que les gens se donnent simplement pour avoir un but dans l'existence, ou pour le semblant d'accomplissement qu'ils retirent de sa poursuite, et non pas pour la réalisation du but en soi. Par exemple, il n'y a aucune raison pratique justifiant de se fabriquer une musculature énorme, de frapper dans une petite balle en direction d'un trou, ou d'acquérir une série complète de timbres-poste. Dans de nombreux cas, la façon dont un individu gagne sa vie constitue également une activité de substitution. Cela va de la recherche scientifique aux prouesses sportives, en passant par le travail humanitaire, la création littéraire et artistique, l'avancement dans la hiérarchie des emplois, l'acquisition d'argent et de biens de consommation, et l'activisme social. Pour la plupart des gens, les activités de substitution sont moins satisfaisantes que la poursuite d'objectifs authentiques. La preuve en est que les gens profondément engagés dans les activités de substitution ne sont jamais satisfaits, jamais tranquilles. Or, si la plupart des gens prétendent qu'ils retirent plus de plaisir de ces activités de substitution que de celles banales, nécessaires à la satisfaction de leurs besoins vitaux, c'est parce que dans notre société, l'effort nécessaire à la satisfaction des besoins vitaux est devenu insignifiant. Plus important, dans notre société, les gens ne satisfont pas leurs besoins vitaux d'une façon autonome, mais en fonctionnant comme des rouages de la grande machine sociale. En revanche, les gens disposent généralement d'une grande autonomie dans la poursuite de leur activité de substitution.
Maintenant, on va aller dans la grande salle découvrir Le Monde des Ronds, mis en scène par Christian Germain. Mais d'abord, on va aller lui poser des questions.
Bonjour, je m'appelle Christian Germain et je mets en scène Le Monde des Ronds au Théâtre Antoine Vitez avec Laurence Viel, Jeanne Carillon et Vincent Granger, qui est un petit conte opéra, où il y a beaucoup de musique, d'un auteur qui s'appelle Gertrude Stein, qui est plus connue parce qu'elle était une grande collectionneuse d'art contemporain et qui a entre autres découvert Picasso, Matisse. Elle avait un grand salon littéraire à Fleurus où se réunissaient tous les grands écrivains américains et la fine fleur de la recherche et de l'avant-garde de la peinture. Elle-même s'est mise à écrire une littérature d'extrême avant-garde. Et en fait, à la fin de sa vie, elle a écrit ce conte qui a été publié en 1939 et elle a fait ce texte pour les enfants, c'est son seul écrit pour les enfants, qui est un conte à lire pour qu'on en ait du plaisir. Et je crois que cette définition pour qu'on en ait du plaisir est vraiment essentielle. L'histoire est extrêmement simple, c'est celle d'une petite fille qui s'appelle Rose, qui est inquiète, qui ne sait pas très bien qui elle est. Donc toujours la question sur l'identité, qui suis-je, tout ça est au centre même de l'histoire. Et elle va, pour savoir qui elle est, se mettre à l'épreuve, grimper sur une colline, voir le monde et savoir qui elle est. Et c'est la question qu'on pose dans le spectacle. Et vous verrez ce qu'elle trouve à la fin du spectacle.
Et est-ce que tu peux me dire ce qui t'a donné envie de monter ce texte ?
Alors, ce texte, en fait, je l'ai découvert parce que, effectivement, je cherchais des textes écrits pour des enfants. Et la première fois que je l'ai lu, je ne me suis pas du tout senti face à un texte pour enfants. Je trouvais que c'était un texte pour les philosophes. Donc, c'est à la fois un texte pour les enfants et pour les philosophes. Mais à la lecture, comme ça, parce que d'abord, le premier sujet, c'est la langue. C'est un texte, un long poème, en fait, avec des assonances, des rimes internes, des rimes tout court. Il y a des comptines dans le spectacle, des chansons. C'est véritablement la langue qui en est le sujet premier. Donc, on a affaire à un poème qui dure une heure, où la langue est toujours questionnée, des fois rudement. C'est dans ce texte qu'il y a ce fameux vers « Rose is a rose, is a rose, is a rose » que tout le monde connaît, de Gertrude Stein, mais généralement on ne connaît que ça. Et en fait, c'est dans ce spectacle, quoi, dans ce conte qui est devenu un spectacle. Parce qu'au début, ce n'est pas du théâtre, c'est juste un texte à dire par des adultes à des enfants, parce qu'elle avait quand même compris que les enfants ne pourraient pas le lire eux-mêmes, parce que par exemple, il n'y a pas de ponctuation parfois. Donc, il faut trouver sa respiration, etc. C'est très difficile à lire à une première approche. Et là, en fait, l'envie de monter le texte, c'était la rencontre, après une discussion avec Laurence Viel, que je connaissais déjà parce que j'avais déjà travaillé plusieurs fois avec elle. Et elle m'a dit que son texte de chevet du moment était Le Monde est rond et qu'elle adorait. Et je lui dis, mais moi aussi, j'adore ce texte. Et on se disait, tiens, ça serait bien de retravailler ensemble. Et on se dit, bah chiche, essayons. Et voilà.
On attend, on est dans la salle. On est dans la salle et donc il y a, en termes de scénographie, il y a deux pans blancs pour pouvoir faire des projections qui sont installés en fond de scène. Et puis sur le côté, la cour, il y a plein de petits instruments et aussi des sortes de calebasses. Tout est bleu, c'est très beau. Des petites calebasses remplies d'eau. Donc on attend. Il y a aussi une chaise assez étrange, plutôt longiligne, qui aussi est dans ce bleu profond. Et puis il y a des rétroprojecteurs qui sont à jardin. Et voilà, on peut imaginer déjà des projections qui vont se dérouler pendant le spectacle.
En ce temps-là, le monde était rond, et on pouvait tourner tout autour en rond et en rond. De toutes parts, il y avait quelque part, et de toutes parts, il y avait des hommes, des femmes, des enfants, des chiens, des vaches, des sangliers, des petits lapins, des chats, des lézards et des animaux. C'était comme ça. Et tout le monde, chien, chat, mouton, lapin, lézard, enfant, tout le monde voulait tout raconter à tout le monde et tous voulaient se raconter à tous. Et puis, Et aurait-elle été rose si son nom n'avait pas été rose? Elle avait l'habitude de penser, puis de penser encore. Aurait-elle été rose si son nom n'avait pas été rose? Et aurait-elle été rose si elle avait été une jumelle?
Une jumelle?
Quoi qu'il en soit, son nom était Rose.
Et le nom de son père était Bob.
Et le nom de sa mère était Kate.
Et le nom de son oncle était William.
Et le nom de sa tante était Gloria.
Et le nom de sa grand-mère était Lucie.
Tous avaient des noms, et son nom à elle était Rose. Mais aurait-elle été, et cela la faisait souvent pleurer,
aurait-elle été Rose si son nom n'avait pas été Rose?
Je vous le dis, en ce temps-là, le monde était tout rond, et on pouvait tourner tout autour, en rond et en rond. Rose avait deux chiens. Un grand chien blanc qui s'appelait Amour et un petit chien noir qui s'appelait Pépé. Le petit noir n'était pas elle, mais elle disait qu'il l'était. Il appartenait à un voisin et il n'avait vraiment jamais aimé Rose et il y avait une bonne raison à ça. Quand Rose était jeune, maintenant elle avait 9 ans et à 9 ans on n'est plus jeune, non Rose n'était pas jeune. Quoi qu'il en soit, un jour quand elle était jeune et que petit Pépé était avec elle, elle lui ordonna de faire quelque chose. Rose aimait bien donner des ordres à tout le monde. Du moins, c'est ce qu'elle aimait faire quand elle était jeune. Maintenant, elle avait presque 10 ans, donc maintenant, elle ne donnait plus d'ordres aux autres. Mais là, elle le fit. Et Pépé refusa de faire ce qu'elle lui ordonna. Il ne savait pas ce qu'elle voulait lui faire faire, mais même s'il l'avait su, il n'aurait pas voulu le faire. Personne n'est d'accord pour faire ce que quelqu'un d'autre lui ordonne de faire. Et donc, Pépé ne le fit pas. Et Rose l'enferma dans une pièce. Pauvre petit Pépé. On lui avait appris à ne jamais faire dans une pièce ce qui devait être fait dehors. Mais il était si nerveux d'avoir été laissé là tout seul qu'il le fit pauvre petit Pépé. Quand on le laissa sortir, il y avait beaucoup de gens. Et pourtant, petit Pépé ne s'y trompa pas. Il fit son chemin à travers toutes les jambes jusqu'à ce qu'il trouva celle de Rose. Et là, il se dressa, lui mordit la jambe et puis s'enfuit. Et personne, vraiment personne, ne pensa à l'en blâmer. Il ne mordit jamais plus personne, mais il ne salua plus jamais Rose. Et Rose continua à dire que Pépé était son chien, bien qu'il ne le fût pas. Ainsi, elle pouvait oublier qu'il refusait de la saluer. Si c'était son chien, il n'avait pas à la saluer, tout allait bien. Mais Rose le savait, et Pépé le savait aussi, ah ça oui, ils le savaient tous les deux. Rose et Amour, son grand chien blanc, aimaient être ensemble. Ils chantaient des chansons ensemble. Voici les chansons qu'ils chantaient. Amour buvait son eau, et alors qu'il buvait, cela faisait comme une chanson, comme une jolie chanson. Et alors qu'il faisait cela, Rose chantait sa chanson. Voici sa chanson à elle. Jusqu'à ce qu'elle s'arrêta et qu'enfin... sec. Et pendant tout ce temps, le monde continuait simplement d'être rond.
Voilà, on va doucement sortir de la salle. C'était l'épisode 5 de Saison, le podcast qui documente la vie du théâtre Antoine Vitez. On a hâte de vous présenter tous ces beaux spectacles. En attendant, suivez-nous sur les réseaux sociaux et on espère à très bientôt.